France Culture.
Alors parfois, c'est ce qu'on rencontre, c'est qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un derrière la porte, mais la personne n'ose pas forcément ouvrir. Là, c'est pour ça qu'on avertit toujours les gens quand même qu'on passe.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Excusez-nous de vous déranger, c'est la communauté de communes. On vient juste simplement vous parler des composteurs qu'on va installer prochainement ici.
D'accord.
Il y en a pour deux petites minutes.
Tenez, on vous laisse le petit flyer qui vous indique donc prochainement l'arrivée du composteur. Et on repassera vous voir pour la distribution des biosceaux, etc. Et vous donner une date d'inauguration et d'installation.
C'est l'idée de vos restes alimentaires, donc épluchures, fruits, légumes, les restes de repas éventuels.
Ouais.
Plutôt que de continuer à les mettre à votre poubelle d'ordures ménagères, vous les mettez à part et vous les mettez dans le composteur.
Bonjour mesdames, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est la communauté des communes.
Écologie et résistance, épisode 1, la charge mentale des petits gestes. Une série documentaire de Pauline Mocor, réalisée par Cécile Lafont.
Bonjour, donc c'est Manon Richard, donc chargée de mission biodéchets, maître composteur à la communauté de communes du Jovinien. Donc là, vous êtes située à Jouanny, au niveau du quartier de la gare. C'est-à-dire que depuis la loi AGEC du 1er janvier 2024, il y a une obligation des collectivités de fournir des solutions aux habitants pour mettre leurs biodéchets à part de la poubelle.
Et moi, je suis la petite main technique qui va intervenir sur le terrain pour sensibiliser, pour guider dans les bonnes pratiques, parce que le compostage, c'est simple.
Julien Chaplet, chargé de prévention biodéchets.
Mais il y a des règles précises à respecter pour que tout se passe bien, sans nuisant, justement.
Donc là, dans l'idée, on avait prévenu les habitants en amont qu'on passait.
De toute façon, on est conscient qu'on ne peut pas convaincre tout le monde. Mais l'idée, c'est toujours une personne convaincue peut en convaincre une autre.
Dans le Jovinien comme ailleurs, tout le monde aime la nature, mais une bonne partie du peuple déteste les écolos. C'est du moins ce que j'entends autour de moi dans les villes et villages de Lyon. Depuis la taxe carbone et le mouvement des gilets jaunes, il semblerait que la transition écologique soit ressentie par certains au mieux comme une injonction, au pire comme une menace. Dans cette série, nous faisons le pari qu'il ne s'agit pas d'un rejet de l'écologie, mais de réaction face aux discours déployés par les pouvoirs publics, parce qu'effectivement, la transition pèse plus lourd sur le quotidien des plus pauvres. Quelles seraient alors les conditions nécessaires pour faire de l'écologie une cause populaire, transversale et partagée? En guise de réponse, cette série propose une mosaïque d'expériences. Nous partons à la rencontre des habitants de milieux ruraux et de quartiers populaires, dans Lyon, en région parisienne, dans les Mauges, à Montpellier. Des chercheurs nous racontent aussi d'autres terrains ailleurs en France métropolitaine.
Prochain arrêt, next station, nächste station de Jouanny.
Partout, les politiques environnementales ont exacerbé les inégalités sociales. Et il apparaît bien souvent que celles et ceux qui parlent le moins d'écologie sont pourtant celles et ceux dont l'impact carbone est le plus faible. Mais d'abord, commençons par Jouanny. Au sud-est de Paris, à 2h30 de voiture ou 1h20 de train. Ah tiens, ça tombe bien, on nous a dit que le train c'était plus écologique.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
C'est la communauté de communes, vous D'accord. avez dû être averti de notre passage, on vient parler des composteurs.
Je crois que c'est ce qui manquait ici.
Il était temps, ouais. Il était temps.
C'est ce qui manquait
c'est,
ici.
C'est une action concrète que vous voyez,
voilà,
ça fait longtemps que
oui. Donc non, voilà parti, quoi. Donc.
Et le compostage, c'est que ça vous parle
Oui, ça me parle. Mmh. Oui, parce que ça fait moins de déchets déjà dans ma poubelle. Déjà. Et puis les odeurs, ça fait moins d'odeurs de... dans ma cuisine, quoi. Et puis, en fait, c'est, on va dire, on économise les sacs poubelles. Le rouleau, il est à 3,50, le rouleau. Et on est tous les deux, donc ça nous fait au moins 3 poubelles par semaine, quand même. Donc c'est... Moi, je suis favorable à ça, hein.
Dans votre quotidien, vous vous rendez compte qu'il y a des améliorations, que les gens sont sensibles au tri des déchets.
Ouais.
Vous avez plutôt l'impression justement qu'il y a une régression, que les gens en ont marre. C'est un geste en plus qu'on leur demande.
Moi, le problème qu'il y a, c'est que j'ai une petite cuisine. Donc, je vous le dis franchement, je ne fais pas le recyclage. Voilà, parce que j'ai une petite cuisine, je ne peux pas mettre de poubelle. Voilà.
C'est important. Et vous savez... Le geste de tri, à quel point il est important. Vous savez, aujourd'hui, sur notre territoire, où partent nos ordures. Je ne parle pas du tri, je parle de la poubelle ménagère.
Ouais.
Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est enfoui.
Ouais,
ou incinéré. Dans les deux cas, on pollue, on brûle ou on enfouit. Alors que ça peut être des déchets qui peuvent être valorisés.
pense que c'est une représentation sociale assez diffusée dans la société, selon laquelle, dans les classes populaires, on ne se préoccuperait pas d'environnement, ou en tout cas la conscience environnementale serait moins développée.
Adrien Mallier, sociologue.
Les politiques publiques, notamment dans les années 2010, se sont données pour mission, beaucoup, de les éduquer. Alors, elles ne le disent pas comme ça, elles parlent plutôt de sensibilisation ou de responsabilisation, mais en fait, ce dont il s'agit, c'est de diffuser une certaine préoccupation environnementale dans les classes populaires, en allant les voir, y compris à leur domicile, à travers des actions de porte-à-porte, à travers des ateliers collectifs en pied d'immeuble, à travers des ateliers dans les centres sociaux. Et donc, ces représentations vont façonner les modes d'action des politiques publiques en les amenant à adopter cette attitude éducatrice. Notamment sur la question des éco-gestes, des économies d'eau et d'énergie, ça c'est extrêmement ciblé sur les quartiers populaires.
Bah oui, hein, tout à fait.
On est la première ligne de l'environnement en France, quoi. Les personnes qui vivent comme nous dans l'appartement et tout ça, qui sont la première ligne de tri de genre de choses pour que ça se passe bien derrière. Donc oui, moi je trouve ça. Si personne chez soi ferait le tri, il y aurait pas de tri dans le pays. Pour moi, c'est nous qui devrions être les plus responsables dans la cause écologique. Voilà, il y a aussi les entreprises, ce genre de choses, mais c'est encore un autre sujet.
Il faudrait que tout le monde s'y mette, quoi. C'est ça, parce que là, il va y avoir nous, on va le faire, mais est-ce que eux, les autres, les locataires et tout ça, est-ce qu'ils vont le faire? C'est ça?
À 15 minutes de voiture au sud de Joigny, nous arrivons à Guerchy, commune de Val-Ravillon. Sous l'impulsion de Marie-Laurence Niel, adjointe à l'environnement, des bacs à compost sont installés dans les écoles et centres de loisirs. Marie-Laurence nous présente Anouk.
Moi j'ai 22 ans, je suis animatrice en centre de loisirs sur le site de Guerchy, Val-Ravillon. Et voilà, je m'occupe du coup des 6-11, des 3 à 11 ans. Bah nous, au centre de loisirs, avant que la mairie mette un compost, on avait déjà un compost qu'on a utilisé depuis des années, qu'on a laissé un peu de côté pendant quelques temps.
Pourquoi ?
Pressé par le temps, parce que avec les enfants, voilà, des fois on met de côté, puis on se dit oh, on a oublié d'y aller, et puis le lendemain matin on arrive et c'est le soir encore là. Enfin voilà, c'est des fois, je vous avoue qu'on a un peu oublié le truc. Moi je trouve ça bien, hein. Enfin, j'ai pas de point négatif dessus, mais c'est juste moi qui je pense qui n'intègre pas je sais pas pourquoi, j'ai pas de raison vraiment en fait, je le fais pas forcément tous les jours. On essaye avec les enfants quand même d'y penser, mais voilà. Après, on a des parents qui sont dans l'écologie, donc ils nous sollicitent à faire attention par rapport au compost, tout ça, et ce que je comprends totalement, hein, mais. Et du coup, des fois, quand on n'est pas forcément... Du coup, encore une fois, qu'on ne se sent pas dans ce milieu, entre guillemets, d'écologie, qu'on n'est pas investi pleinement dedans, qu'on essaie quand même de faire un petit peu, il y aura toujours des personnes pour nous dire « Oui, mais là, c'est pas bien comment tu fais, parce qu'il faut faire comme ci, comme ça. » En fait, il y a toujours des critères à respecter et on sait pas forcément... On essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours facile. Voilà, des choses qu'on peut faire au quotidien, mais qu'on va pas se dire « J'ai fait attention à l'écologie aujourd'hui. »
Une étude d'une envergure planétaire maintenant, celle d'El Niño. Le phénomène océanique provoque des dérèglements climatiques mondiaux.
500 scientifiques, 5 jours de débat, 25 pages de synthèse et des conclusions alarmantes.
Si on n'y fait pas attention, à partir de 2050, un été sur deux sera plus chaud que l'été 2003, qui lui-même était de 4 à 5 degrés plus chaud
avec
qu'un été moyen.
80 départements en France qui sont toujours en alerte sécheresse, avec des épisodes caniculaires jusqu'en...
Quand j'ai commencé à étudier au milieu des années 2000 la manière dont les enjeux liés au changement climatique allaient être traités dans les espaces médiatiques et politiques, j'ai constaté, d'une part, que à partir de 2005, 2006, 2007, 2008, c'était devenu un sujet majeur.
Jean-Baptiste Combi, sociologue.
Il faut avoir en tête qu'à cette période-là, chaque semaine, dans les journaux télévisés du soir de TF1 et France 2, on a plusieurs reportages en lien avec les dérèglements climatiques et les économies d'énergie. Et c'est à ce moment-là, la fin des années 2000, c'est l'avènement de l'éco-citoyennisme, c'est-à-dire une écologie qui va individualiser, qui va faire porter sur les individus la responsabilité de l'avenir de la planète. L'État, le ministère de l'Environnement, et en particulier l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, à ce moment-là, donc, va déployer un arsenal de campagnes de communication gouvernementale extrêmement massives, puissantes, et là aussi, avec des budgets inédits, quoi, pour faire de cette question écologique un enjeu de morale qui relève de la sphère domestique et donc des comportements privés, et non plus un enjeu qui relèverait de la sphère publique. Typiquement, un chiffre qui pendant plusieurs années va tourner en boucle dans tous les rapports, dans tous les dossiers de presse, dans tous les reportages, les articles, les Français et les Françaises sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est un artefact statistique qui en fait agglomère les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du logement, dans le secteur du transport et dans le secteur du déchet. Sauf que dans le transport et dans le logement, il n'y a pas que des véhicules individuels et il n'y a pas que des maisons ou des appartements. Il y a aussi tout ce qui relève du transport de marchandises, de la commercialisation, des logements, des universités, des écoles, des hôpitaux et autres. Et donc, du coup, typiquement, il y avait ce discours de « les individus sont responsables, le problème n'est plus perçu comme un enjeu politique ».
Alors moi, je pense que pour une petite partie, heureusement une petite partie, mais bien trop grande, l'écologie a un côté punitif. On va leur demander de faire des efforts, on va leur demander de faire un petit geste encore supplémentaire dans leur quotidien. Et ça peut être difficile à entendre. On le conçoit, on l'accepte, on est d'accord ou pas, c'est un autre sujet, mais on l'entend. C'est le cas souvent dans les porte-à-porte. « Ah, vous allez me demander encore de faire un geste, je paye de plus en plus cher. » Et en plus, vous venez nous demander de faire un geste supplémentaire. Donc il y a ce côté un petit peu punitif, mal pris souvent. Et nous, en discutant, on essaye de les convaincre, de leur dire que c'est dans l'intérêt collectif, du bien commun. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est pas évident. Parce que les arguments tout faits qu'on entend souvent, « Ah non, me parlez pas de compostage, c'est un truc de bobo parisien écolo. » On argumente souvent que le compostage, c'est un petit geste en faveur de l'environnement qui est à la portée de tous. C'est vos déchets que vous déposez au bon endroit. Et déjà, si tout le monde aujourd'hui fait ce petit geste, déjà, c'est une avancée énorme.
Je choisis mon éclairage. Je profite de la lumière du jour.
Je coupe la veille des appareils électriques.
Je limite la température.
Je baisse le chauffage en mon absence.
J'utilise les thermostats d'ambiance.
J'évite le jetable.
Je bois l'eau du robinet.
J'aère régulièrement.
J'optimise ma chasse d'eau.
Je préfère la douche au bain.
Je baisse le son.
Je mange bio.
Je fais mon compost. Notre avenir est entre nos mains. Il faut réagir. Et vite. Le développement durable est bel et bien une révolution culturelle qui devrait nous conduire à changer de comportement, produire et consommer différemment afin d'assumer pleinement nos responsabilités. Réduisons notre impact écologique. La nature et l'humanité ont besoin de chacun de nous, là où il est. Alors faisons les bons gestes pour la planète. Ouvrons le chemin. Soyons citoyens de la Terre. Les politiques et les industriels suivront.
Le petit livre vert pour la Terre, Nicolas Hulot.
Cet âge d'or de l'éco-citoyennisme, c'est difficile d'y échapper, puisque ça s'était porté par des personnes qui étaient très populaires, donc Nicolas Hulot, qui a été un des fers de lance de cet éco-citoyennisme qui individualise et qui dépolitise, qui encourage à des modifications de gestes ici et là, mais sans jamais, évidemment, suggérer l'idée qu'il faudrait transformer en profondeur ces manières d'exister, ces manières de vivre. Il y avait des agences de communication puissantes, TBWA, qui est une des plus grandes agences de communication, un peu comme Havas, c'était des milliers d'euros pour élaborer ces petits gestes et les diffuser sous tous les formats possibles et inimaginables.
J'utilise mon panier.
J'opte pour les LED.
Je surveille mon animal domestique. Je préserve la forêt tropicale.
J'évite d'introduire des plantes ou animaux invasifs.
J'enlève la poussière. Une ampoule dépoussiérée, c'est 40% de luminosité supplémentaire.
Je pratique un sport adapté.
Je privilégie les transports en commun.
Quand on parle de petits gestes, on impose un jugement de valeur qui est problématique parce qu'il nous empêche de bien saisir ce qui se joue pour les individus quand ils sont confrontés à ces injonctions à modifier au quotidien leur comportement pour l'avenir de la planète. Hein. L'idée que ils pourraient individuellement, sous leur douche, dans leur cuisine ou en faisant leurs courses, sauver la planète. Une idée qui est déjà un petit peu socialement située, c'est-à-dire que c'est assez frappant de voir que dans les milieux populaires, les individus sont assez perplexes par rapport à ça. Ils ont plutôt l'impression d'être une goutte dans l'océan, pour reprendre leur expression. Et ils rappellent que nous, on est des petites gens, quoi. Hein. C'est pas nos petits gestes, nous petites gens, qui allons vraiment changer la chose. Alors que dans les milieux plus aisés, plus cultivés, on est persuadé que quand même c'est important parce que ensemble, les uns à côté des autres, si chacun fait sa part, on va y arriver. Bon, ce qui pour l'instant, on n'a pas eu un once d'indice du fait que ça puisse avoir une quelconque efficacité sur l'empreinte carbone d'un pays, voire même d'un territoire ou d'une classe sociale. Bon.
Alors oui, effectivement, dans les vêtements, même les coquilles d'œufs, tout ça, il y a pas de souci. Le pain, il y a pas de problème. Les agrumes non plus. Par contre, il faut vraiment faire attention à ne pas mettre, par exemple, je dis une bêtise, la baguette de pain entière, même la demi-baguette. Oui, déjà.
Alors ici, nous sommes dans le quartier de la Madeleine à Joigny, qui est le plus grand quartier d'habitat collectif de la ville de Joigny. Nous procédons à l'inauguration d'un site de compostage fraîchement installé. Donc, on fait remplir auprès des usagers, des chartres d'usagers en échange du bioseau. Et c'est l'occasion de les initier aux bonnes pratiques.
Et là, vous avez plusieurs composteurs. Vous avez la première, c'est la réserve de broyat.
Ouais,
donc c'est la matière sèche.
Ouais.
Ici, vous avez bac d'apport. C'est là que vous allez déposer vos restes alimentaires.
Voilà.
Je suis Jacques Courtin. Je suis conseiller municipal de l'opposition à Joigny. Je fais partie du conseil d'administration de la CIMAD, d'où ma présence ici. La CIMAD, c'est la société immobilière de la ville de Joigny. On attribue les logements aux gens qui logent dans nos bâtiments. Voilà.
Combien de personnes qui vivent ici ?
Il y a 900 logements, en gros. Ça fait 2000 personnes, quoi, je crois. 2500 personnes. Mais il y a quand même beaucoup de familles avec plusieurs enfants.
Et votre intérêt à installer ce genre de lieu de compostage,
c'est limiter le nombre de levées de poubelles. Je pense que si on peut limiter les nombres de levées, qui dit moins de levées, moins de camions, moins de en fin d'année, on est à un coût inférieur normalement. Si on fait des levées complètes, si on remplit des poubelles, des poubelles sont compostées effectivement. On diminue les volumes.
Ça permet aussi de rencontrer la population. Là, c'est le cas aujourd'hui, de communiquer auprès des habitants, de communiquer auprès des jeunes, des plus jeunes, de façon à ce qu'on ait ce comportement vertueux avec nos déchets.
Et éviter les dépôts sauvages.
Oui.
Les gens laissent remettre une poubelle, ils ne savent pas où la mettre. Remettre n'importe où, que ce soit des déchets putrécibles comme ça, ou d'autres, mais les gens, il faut voir, il y a des voitures qui tournent pratiquement en permanence dans Joigny pour ramasser les dépôts sauvages quand même, il faut le savoir.
C'est aussi une question de sensibilisation. Je pense que plus il y aura d'initiatives de ce genre, plus les gens qui ont tendance à jeter leurs ordures sur la voie publique vont réfléchir, peut-être une prise de conscience. Enfin, c'est ce qu'on espère, voilà.
C'est-à-dire que pour que les gens y trient et qu'ils acceptent de composter, qu'ils acceptent de trier leurs poubelles aussi, poubelles jaunes, poubelles marron et tout, il y a une petite éducation, une petite sensibilisation.
La politique de la ville, qui est donc une politique sociale territorialisée, qui cible des quartiers pour faire de l'action sociale, s'est réappropriée le développement durable comme un programme d'action qui allait lui permettre de s'adresser aux habitants des quartiers populaires.
Adrien Mallier, sociologue.
La politique de la ville dans les années 2010, finalement, se saisit de l'écologie comme d'un discours légitime pour régler les problèmes sociaux en refondant le lien social, donc à travers tout un ensemble de politiques de participation qui, en réalité, sont une forme d'encadrement des façons d'habiter des classes populaires urbaines. Et c'est pour ça que moi je parle dans mes travaux d'un contrôle social écologisé. En fait, ces politiques de sensibilisation, elles viennent donner un tampon institutionnel à ces représentations disqualifiantes. Elles viennent confirmer d'une certaine façon cette représentation selon laquelle si la résidence est envahie de déchets, c'est bien parce que les gens qui y vivent sont dégueulasses. Et donc, cette représentation accusatrice, elle va à nouveau justifier des politiques de sensibilisation et de responsabilisation contre le jet d'ordures par les fenêtres, contre le dépôt sauvage des encombrants et pour le tri des déchets dans les différents bacs. Et donc, vous voyez comment est-ce que les représentations altérisantes, disqualifiantes, à nouveau façonnent les modes d'intervention.
D'accord.
Et puis voilà, faites bien attention, les petits sacs plastiques, même notés compostables en supermarché, ouais. On demande de ne pas les mettre parce qu'ils ne se compostent pas en fait dans nos composteurs ici. Donc on demande de juste faire attention aux sacs plastiques.
D'accord.
Merci beaucoup.
Pas de souci.
C'est quoi, monsieur ?
C'est bien, c'est un bon geste. Hein. C'est pas mal. Après, moi, c'est pas moi qui jette les déchets, c'est ma mère. J'espère que les gens ils vont respecter. Parce qu'il y a des gens qui respectent pas. Moi, des fois, je viens, je vois, il y a des poubelles partout. Hein. Alors, nous, il y a une poubelle, tu jettes dedans, c'est pas tu mets à côté. On va dire, c'est moche, hein. Quand tu jettes partout, en bas et tout, c'est pas bien.
Ça, c'est les gens qui
respectaient pas.
Ouais. Qui sont mal éduqués.
Même toi, t'as remarqué ça?
Moi, je les vois par ma fenêtre et ils jettent au sol. Et ils trient pas.
Non, parce que des fois, la poubelle, elle est remplie.
Oui, non. Des fois, même pas remplie, ils les mettent au sol.
Ah ouais?
Ils veulent pas les mettre au-dessus. Ils veulent pas les rentrer à l'intérieur. Ils ont rien à faire. Le dimanche, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de gardien pour les ramasser. Et ça fait que les rats, parce qu'on a des gros rats qui sortent des égouts, ils profitent, ils déchirent. Avant, ils étaient dans les caves.
Des rats maintenant ?
On voit des rats sortir des égouts.
Pour moi, il faut rajouter des poubelles, tout ça.
Il
n'y
a pas assez.
Il n'y a pas assez. Il n'y
a pas assez. Parce que maintenant,
il y a plus de gens ici. C'est pas comme avant, j'en ai. Les camions de poubelles, il faut qu'ils passent une fois par jour, deux fois par jour.
Deux fois.
Là, ils passent combien de temps ?
L'accumulation de déchets, c'est un problème beaucoup plus complexe que juste ce problème d'incivilité. En réalité, il y a d'autres facteurs explicatifs de la situation qui sont liés, pour une part, à des facteurs sociologiques. C'est-à-dire que ces quartiers d'habitat social sont des quartiers particulièrement denses, où il y a beaucoup de monde au mètre carré, mais il faudrait que l'intensité du ramassage soit proportionnelle à la densité de population et à la densité de la fréquentation des espaces. Et ça, c'est une donnée qui n'est généralement pas prise en compte par les mairies ou par les syndicats de propreté. À partir du moment où vivre dans un quartier où les déchets s'accumulent est reconnu socialement comme un signe que vous gérez mal vos déchets, ce qui est confirmé par les politiques municipales, du bailleur social, qui vont sensibiliser les gens, eh ben, accuser ses voisins et ses voisines, on peut l'interpréter comme une tentative de détourner le stigmate, de détourner l'accusation, pour s'en protéger individuellement. Et donc, voilà, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que cette condition commune d'être exposé aux déchets, finalement, ne crée pas du collectif, mais crée plutôt des conflits et de l'atomisation.
Le tri sélectif.
Oui.
On en fait.
On fait le tri sélectif.
Tout le monde en respecte.
Il faut tout le monde y respecte pour que ça puisse, que l'écologie, ça permette de voir. Oui, c'est bien, propre. Mais si moi j'ai mis dans le bac jaune, elle a mis dehors de bac jaune, ça c'est. Oui, c'est calme.
Oui, mais c'est pas respecté les tri. C'est pas respecté. Moi, chez moi, je vois, c'est pas respecté. Les gens, ils jettent aussi bien le plastique que le carton dans les poubelles marron, alors que c'est dans le jaune.
Ça attire les rats. C'est le problème des rats.
Il y a des rats qui se promènent.
Dans ma cave, il y a des rats. Je peux
même à 45 minutes de voiture vers le nord de Lyon, nous arrivons maintenant à Sens, dans le quartier populaire des Champs-Plaisants, 6000 habitants. Ici aussi, le ramassage des déchets pose problème. Nous rencontrons des mères de famille convaincues qu'il faut agir pour la planète. Elles appliquent d'ailleurs consciencieusement les consignes de tri, et si elles insistent sur le fait que tout le monde ne respecte pas ces consignes de tri, c'est avant tout pour se protéger du stigmate, décrit par Adrien Mallier. Ce qui attise leur colère, c'est le sentiment d'injustice. Car si elles honorent leurs devoirs, c'est à sens unique. Quand elles veulent faire respecter leurs droits, le bailleur fait la sourde oreille.
On appelle, ils disent que oui, on vous envoie quelqu'un, mais jamais.
Donc vous vivez comme une injustice, quoi.
Voilà. Oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui pour moi, parce que c'est... Tous les ans, ils augmentent le loyer. Pourquoi une fois par l'année, ils ne rendent pas les visites dans l'appartement? Est-ce que vous avez des travaux à faire, tout ça? Pourquoi ils ne nous demandent pas? Pourquoi ils ont le droit d'augmenter le loyer sans nos autorisations. Mais pourquoi ils ne demandent pas? Est-ce que vous avez des chauffages qui marchent? Est-ce que vous avez des quelque chose qui a cassé, tout ça? Pourquoi ils ne nous demandent pas? Même nous, on réclame, ils ne font pas des travaux tout de suite. Il faut appeler.
On paye un chauffage monstre pour rien. Oui, on n'est pas chauffé. On va rentrer en hiver et on a froid. Donc il faut remettre un chauffage en plus, payer en plus de l'électricité pour avoir chaud.
Je suis en train de vivre avec humidité depuis 5 ans. Ils savent. Mon grand, il a eu souvent, il était enrhumé. Quasiment, quand il y a de fortes pluies, le lot, ça rentrait. On appelait l'assurance, et l'assurance, ils ont dit que ce n'est pas nous, c'est les toitures qui font faire les réparations. Ils ont fait, l'HLM, ils ont fait des réparations. Au bout de 3 mois, ça est revenu.
Et est-ce que vous sentez concerné par la crise climatique?
Non. Moi, je suis tout ça, je ne sais pas. Non, je ne me trouve pas concerné. Je vois ça à la télé et tout, mais ça ne m'intéresse pas, moi. Tout ça, je m'en fous. Ça vous intéresse?
Moi, c'est intéressant parce que c'est la crise climatique, c'est de pire en pire. Et les personnes qui polluent le plus gros, ce n'est pas le citoyen lambda, c'est les grosses usines, les grosses voitures comme en Amérique qui polluent plus parce qu'ils sont assez puissants, qui font plus de CO2. Et le peuple en pâtit à cause des plus riches et qui fait qu'ils pensent qu'au fric, argent, argent et argent. Ils ne pensent pas au citoyen lambda. Concrètement, on ne peut rien faire. Parce que c'est les lobbies, c'est les plus riches. Si on était écoutés et que les plus riches écoutaient le citoyen lambda, qui y pense. Peut-être, mais de ce côté-là, ils n'écouteront pas. Même quand vous parlez à la télé, que vous en mettez en avance, comme l'écologie à l'Assemblée, ils n'écoutent pas. De ce côté-là, ce qui est dommage. Ça m'inquiète largement. Et on c'est peut-être nos jeunes enfants qui vont en subir après nous, ce qui est dommage. Je souhaite une très bonne journée. Allez, je vous laisse.
Merci d'être venu, à bientôt.
Merci, au revoir. Ou après les Grecs? Là, il n'y a pas de oui ou non. Avant ou après? Avant, après.
Du Jovinien à la Seine-Saint-Denis, même constat, ceux qui polluent le moins sont ceux qui subissent le plus l'impact de la crise climatique. Et ce sont aussi ceux qu'on écoute le moins. C'est pour cette raison que l'association Get Up organise des ateliers sur la question climatique avec des jeunes habitants du 93.
À notre sens, le lien entre changement climatique, injustice sociale et racisme, à notre sens, il est assez évident, c'est qu'on ne vit pas les impacts du changement climatique de la même façon en fonction de son lieu géographique.
Anissa Nebia travaille pour Get Up à rendre visible l'imbrication des injustices sociales, raciales et climatiques.
Donc, quand on vit dans un milieu qui est très bétonisé, quand on vit dans des quartiers populaires, qu'on a le périph à côté de chez soi, on n'a pas les mêmes problématiques de pollution de l'air, on n'a pas les mêmes problématiques de pollution sonore aussi, on n'a pas suffisamment d'espace vert autour de chez soi, on a un accès à l'alimentation saine qui est inégal. Le racisme, il est intrinsèque à tout ça finalement. C'est que les problématiques de racisme, on les voit tous les jours au sein des quartiers populaires. Pour dire les choses de manière assez basique, c'est là où on va retrouver des minorités qu'on va aussi retrouver les plus gros impacts du changement climatique. Ça vaut à l'échelle planétaire, comme ça vaut à l'échelle française, nationale. C'est dans les espaces où il y a le plus de minorités qu'on va avoir aussi le moins de mesures prises pour améliorer la qualité de vie en lien avec le climat. On ne pense pas à l'isolation. Et les grands ensembles qui aujourd'hui existent depuis plusieurs décennies ne sont pas rénovés comme on voit chantiers de rénovation thermique dans d'autres espaces. Les bailleurs n'ont pas les moyens, pas les ressources, mais aussi pas cette volonté, pour le coup, de pallier à ces problématiques-là. Aujourd'hui, on vit... Il y a des personnes qui vivent dans des logements qui sont insalubres du fait aussi des changements de température permanents. Hein, enfin, on n'a plus de saison, c'est ce qu'on dit souvent. Et ça a un impact juste sur les moisissures sur le plafond qui est autour des fenêtres. Et donc, on n'y pense pas.
Moi, je trouve que j'ai des pratiques écologiques. Par exemple, dans mon lycée, il y a toutes les classes, c'est obligé. Elles sont obligées d'aller nettoyer les ruelles du quartier pour enlever tout ce qui est déchets, etc. On doit les trier. Après, je sais que moi, par exemple, je fais des sachets dans des... Je sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est des usines pour justement trier, recycler, etc. Mais comme Anas, il a dit, j'ai pas... Je peux faire mieux.
Vas-y, si tu veux,
après, la parole à... Anas, pour te répondre, je sais une chose, c'est que pour moi, c'est ce qu'on fait, nous, en tant que jeunes, c'est des petites actions. Par exemple, au lieu de prendre une voiture pour aller quelque part avec ton pote, tu vas faire du vélo. Tu vas faire du vélo jusqu'à, je sais pas où, jusqu'à Fosse, par exemple. Tu vas faire du vélo jusqu'à Fosse au lieu d'aller en voiture. Tu vas prendre le RER au lieu de prendre une moto.
Ok, on prend une dernière réponse par ici.
Bah, je pense vraiment que même si c'est pas forcément intentionnel, bah, tu fais quand même des petits gestes et ça contribue quand même au combat écologique. Du coup, voilà.
GetUp, c'est une association qui est née à Stein dans le 93. Notre objectif, c'est de révéler et de mettre en lumière le pouvoir d'agir des jeunes de quartiers populaires. L'écologie, c'était pas nécessairement un sujet qu'on comptait aborder spontanément au niveau du pôle recherche. On a souhaité, avec Ipsos, creuser le sujet de l'engagement des jeunes. Et on a fait aussi une enquête, en parallèle de ça, des entretiens avec plus de 70 jeunes. Et on a questionné ce rapport à l'engagement et les préoccupations de ces jeunes. Et ils ont cité beaucoup de préoccupations, en réalité les mêmes que celles de tous les Français, en premier lieu, pouvoir d'achat, sécurité sociale, etc. Et ils ont cité beaucoup de choses relatives à l'écologie sans jamais poser ce mot dessus. Ils ont parlé de logements insalubres, ils ont parlé du fait qu'il n'y avait pas de parc autour de chez eux, qu'il y avait trop de bruit, qu'il y avait beaucoup de pollution... de l'air, il y en a beaucoup qui parlent de leur asthme, par exemple. Enfin, ils ont cité plein de choses. Pour nous, le lien était assez évident, mais eux n'ont pas posé le mot écologie.
Bah, en fait, personnellement, moi, je vais parler de mon expérience. C'est que, bah, avant, par exemple, Campus, qui est basé sur l'injustice climatique, bah, il n'y a jamais personne qui a pris l'initiative de venir dans des banlieues ou dans des lycées, bah, du coup, de banlieue, nous demander notre avis sur la question écologique. C'est-à-dire que, bah, on a forcément eu des programmes en cours où ça parlait d'écologie et tout, mais on n'a jamais eu la possibilité de donner notre avis sur cette question-là. C'est-à-dire que, bah, en fait, OK, par exemple, il y a des personnalités comme Greta Thunberg qui sont là pour représenter un mouvement écologique, mais ce n'est pas pour autant que je me sens représentée par elle, étant donné qu'elle fait quand même partie d'une élite, on va dire, privilégiée comparée à nous qui avons des conditions qui ne sont pas totalement pareilles. Du coup, bah, ça fait que bah, toute cette sphère, je ne me sens pas représentée dedans. Voilà.
Les mesures politiques, dans une certaine mesure, pèsent plus lourd sur les quartiers populaires parce qu'on se concentre sur des mesures qui sont palliatives et qui reposent sur leurs épaules. On va leur demander de faire des éco-gestes sans parfois leur expliquer leur utilité, leur impact. Ça va être des organisations dans un contexte scolaire, hein, de sortie pour aller nettoyer son quartier. Ça va être de leur expliquer que la voiture, c'est pas bien, alors qu'ils ont pas de transport autour de chez eux, que c'est mal desservi, que leurs parents ont besoin d'aller au travail, mais on leur dit quand même que la voiture, c'est mal, ça pollue. Et donc, les éco-gestes, c'est des choses qu'on va leur inculquer pendant des temps de sensibilisation en leur expliquant un petit peu que ces petits gestes du quotidien vont tout transformer, que ça repose sur eux, et que s'ils le font pas, c'est quelque part à cause d'eux qu'il fait trop chaud l'été. Alors qu'en fait, ça les dépasse tellement. Et nous, on veut leur expliquer les enjeux structurels, comment ils peuvent œuvrer aussi à ce niveau-là. Et aujourd'hui, les jeunes avec qui on travaille et qu'on accompagne, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont déjà un rapport à l'écologie qui est vertueux.
Eh bien, merci pour ces échanges plus qu'intéressants. C'est exactement pour ces raisons-là en fait, qu'on fait ce genre d'atelier. Vous ne vous rendez pas compte, mais chacun d'entre vous ici a déjà fait quelque chose ou fait quelque chose même dans son quotidien en faveur de l'écologie ou en tout cas a des pratiques écologiques dans son quotidien. C'est juste que très souvent, elle n'est pas consciente. Donc vous êtes tous plus ou moins des écolos invétérés. Vous avez des pratiques. Elles sont héritées souvent, même culturellement. Moi, je pense à un truc, et vous me dites si c'est le cas, mais je suis quasi certaine que c'est le cas dans vos familles aussi. Chez nous, on ne jetait pas les vêtements. Donc en fait, mes parents, ils donnaient les vêtements à ma famille à l'étranger. Donc en fait, chaque année, quand on descendait au bled, donc au Maroc, pour mon cas, en fait, on avait des sacs remplis de vêtements qu'on donnait aux petits cousins, aux petites cousines. Ça, c'est une pratique écologique. Et l'objectif de ce genre d'atelier, c'est aussi de vous faire prendre conscience, que, en fait, on n'est pas là pour culpabiliser. Chacun fait à son échelle, à sa manière, avec les capacités qu'il a et les moyens qu'il a. Effectivement, la question de l'échelle, elle est super importante. Parce qu'en fait, moi, si, par exemple, effectivement, j'habite dans le fin fond du 77 ou du 78, oui, je ne vais peut-être pas venir à Paris en vélo. Tu vois ? Donc c'est facile pour quelqu'un qui a la possibilité de vivre à Paris de dire « Oui, mais il faut prendre le vélo, c'est mieux que la voiture. » Oui, effectivement, c'est mieux que la voiture. Mais dans le cas où tu habites à Paris et que tu as la possibilité de le faire. Donc effectivement, la question de l'échelle, elle est super importante. Et c'est là où vous devez prendre conscience que vous avez tous une pratique écologique dans votre quotidien. On passe à la question suivante.
La notion d'injustice, nous, on la pointe du doigt, évidemment. Les jeunes ne nous en parlent pas nécessairement. Et voilà, ils savent au fond que ces petites actions, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et donc, une indifférence face à tout ça. Ils ont aussi des préoccupations qui sont bien plus importantes pour eux et prioritaires. C'est que on a aussi des menaces qui sont quotidiennes, qui sont imminentes. Là, on peut reparler des violences policières. C'est quand on risque quelque part sa vie en allant juste s'amuser à côté de chez soi ou en allant au foot, enfin peu importe, en se baladant le soir, ben on sent pas que sa vie est menacée par le climat, parce qu'il y a plein d'autres menaces qui pèsent.
Merci.
D'une part, je peux pas totalement dire, enfin je peux dire que je me sens pas du tout représenté par le mouvement écologique, mais en même temps, il y a une certaine partie de moi qui me dit que ça évolue et ça bouge. En fait, si je ne me trouve pas représenté, c'est par exemple, est-ce que moi je suis Greta Thunberg ? Est-ce que Maya c'est Greta Thunberg ? En vrai, moi elle ne me représente pas, je ne sais pas c'est qui. Et on la vend comme une élite, elle est jeune, elle s'intéresse à l'écologie, waouh, c'est dingue. Alors qu'en vrai, nous aussi on a le droit. Et en fait, je me rends compte que plus les années passent, plus on crée notre image. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment maquillés, oui, de toute façon vous êtes dans la banlieue, on s'occupe de vous, mais en vrai là on sort de nos banlieues. Et c'est bien, on passe d'invisible à un peu plus visible, et ça fait plaisir en tout cas. Et voilà pourquoi je me place ici.
Ok, merci. Ce témoignage, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Non ? Ouais, vas-y.
Nous quittons la région parisienne pour nous rendre en Puisaye. C'est le trajet qu'a suivi Pierre Faucheur il y a 30 ans. Nous reprenons la voiture pour 2 heures de route. C'est obligé, car en transport public, il faudrait le double de temps, et le bus ne passe qu'une seule fois par jour. Qu'est-ce que vous pensez de la politique écologique telle qu'elle est menée aujourd'hui en France ?
Il y en a une.
Comment ?
Il y en a une. J'ai pas l'impression. Il n'y a pas de politique écologique. Je veux dire, il faudrait vraiment tout basculer au niveau de l'écologie. Pas seulement dans l'agriculture, dans la chimie, dans tout. Et réellement, non, on n'a pas un pouvoir. La seule chose qu'utilise le pouvoir vis-à-vis de l'écologie, c'est d'imposer des normes qui ne coûtent que aux pauvres. Moi, je vois le problème, je roule avec des vieilles voitures. Et j'entretiens, gratuitement ou en payant, des voitures de tas de gens. Leur angoisse à eux, c'est le contrôle technique. C'est tous les 2 ans. Vous arrivez avec la voiture. Ok, la voiture qui vient de sortir, qui est toute neuve et tout, qui bizarrement fait 1,6 tonne, qui a des pneus lâches comme ça, qui bouffe et tout. Elle va passer. Un de mes frangins vient d'acheter une voiture neuve, une Clio. Je regarde la carte grise, 1,6 tonne. Je regarde la carte grise d'une Clio que j'ai eue il y a quelques années, 900 kilos.
Et alors ?
Eh ben, si on balade
700 kilos de plus, forcément, au niveau écologique, je regarde les pneus, ils sont larges comme ça. Ben, quand ils sont larges comme ça, ils vont balancer beaucoup plus de particules. Tout est comme ça. Mais on vous dit, mais non. Et la voiture de Bernard, une vignette critère 1, il rentre dans Paris et tout et tout. Moi, ma vieille Clio, je peux pas y aller. Et ça, on a imposé aux pauvres de changer leur bagnole, qui ne peuvent pas changer. Le coût des diesels, je trouve ça inadmissible. À des centaines, des dizaines et des dizaines de milliers d'automobilistes, on leur a dit il y a 30 ans, la solution, acheter cette voiture, ces voitures. Après, on s'aperçoit, ils le savaient avant, ça balance des particules fines et tout et tout. Qui aurait dû payer? C'est le constructeur. C'était Peugeot qui aurait dû dire, ah ben, on vous reprend vos voitures, et qui, aujourd'hui, est emmerdé, et qui, quand il se fait croiser par les flics, à votre contrôle technique, il est plus valide, mais qui va payer? C'est encore les gens d'en bas. J'ai un pote qui tient le contrôle technique à Clamecy. Clamecy, attention, la Nièvre, c'est encore pire que Lyon. Là, il a des clients qui passent leur voiture tous les deux mois parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas la remettre aux normes, la voiture. Mais qu'ils peuvent pas changer de voiture. Et comme ils ont besoin d'une voiture pour aller bosser ou pour aller chercher les mômes à l'école et tout, et ben ils continuent à payer comme ça. Et le contrôle technique, il est valide. Et quand il est refusé, il est valide pendant deux mois. Et les gens, ils passent son contrôle technique, ils attendent deux mois et un peu plus, et ils repayent. Donc ça leur coûte. Mais au moins, ça leur permet de continuer à rouler avec une voiture qui ne vaut plus rien, mais qui leur permet d'aller faire leur course. Eh bien, moi, je pense que c'est pas avec ça qu'on va réduire la pollution. Il y a des tas d'autres solutions pour réduire la pollution que de s'en prendre aux gens du bas.
La manière dont l'écologie peut être promue par les pouvoirs publics représente une forme de violence à l'égard des modestes économes, déjà parce qu'elle ne reconnaît pas que leur mode de vie existe et que leur mode de vie est économe et qu'en fait que leur mode de vie pourrait être une forme d'exemple aussi de mode de vie extrêmement sobre.
Fanny Hugues est sociologue. Elle s'est intéressée aux modestes économes et à leur mode de vie fait de débrouille rurale.
Je me suis rendue dans plusieurs départements de la France métropolitaine. Donc je suis allée en Ariège, dans le Tarn, en Haute-Vienne, dans la Sarthe, dans le Finistère et en Moselle. Et j'ai rencontré 44 personnes qui étaient réparties dans une trentaine de ménages qui appartiennent aux classes populaires et dont les modes de vie sont caractérisés par d'importantes pratiques de subsistance. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont faire leur potager, qui vont faire leur bois de chauffe, qui vont récupérer, qui vont réparer, qui vont échanger et qui vivent donc avec peu de revenus et qui arrivent à bien s'en sortir grâce à ces pratiques-là. Et donc pourquoi je les ai appelées modestes économes? Parce que donc modestes parce qu'ils ont des modes de vie modestes, donc avec des faibles ressources économiques, mais aussi modestes parce qu'ils font preuve d'une forme d'humilité. Ils cherchent pas à se faire remarquer en dehors de leur cercle d'interconnaissance, dans le sens où ils ont peu de liens avec la vie politique, associative et citoyenne locale. Et c'est des personnes qui vont chercher à reproduire leur mode de vie de manière discrète, notamment parce qu'il y a certaines pratiques qui flirtent un peu avec l'illégalité. Par exemple, avoir plusieurs cochons élevés à la maison alors qu'on a le droit d'en élever qu'un par an, etc. C'est ce genre d'illégalité-là. Et puis économes parce que donc ils mettent en œuvre énormément de pratiques économes qui leur permettent donc de reproduire leur mode de vie. Il y a les trois principaux postes d'émission de gaz à effet de serre sont le logement, le déplacement et l'alimentation. Et en fait, sur ces trois points, les modestes économes et les débris rurales sont éminemment sobres. Dans le sens où ce sont des logements souvent de petites surfaces qui sont chauffés avec du poêle à bois qui est approvisionné de manière locale. Il y a souvent une seule pièce qui est chauffée. En termes de déplacement, les déplacements sont réduits, sont groupés, sont rapprochés. On se déplace jamais pour aller chercher une baguette de pain. On a des vieilles voitures, certes, qui roulent au diesel, certes, mais qui sont facilement réparables parce qu'on peut accéder aux pièces sous le capot, parce qu'on peut aller à la casse chercher certaines pièces manquantes, et puis parce que ce sont des voitures qui ne sont pas électronisées et donc qu'on peut facilement réparer avec des savoir-faire de mécanique. Et puis en termes d'alimentation, les modestes économes s'alimentent avec de la production domestique, donc que ce soit leur potager, leur verger ou leur basse-cour ou celle de leurs proches. sont des personnes aussi qui cueillent, qui glanent dans la nature, qui vont aussi voilà, donner et troquer des aliments. Et il y a aussi le fait de respecter la nature dans une logique de réciprocité. La nature nous donne. Si on veut qu'elle continue à nous donner, il faut qu'on en prenne soin. Mais pour autant, les modestes économes ne se déclarent pas écolos.
Ici, il y a deux grosses consommations, c'est le déplacement. Hein. Après, le reste, il se trouve que la maison que j'habite, elle est payée depuis longtemps et tout, que j'ai pas de goût de luxe. Non, c'est essentiellement les deux postes, mais je peux pas détailler exactement, c'est l'alimentation et le transport.
Et le chauffage ?
Le chauffage, c'est pas la mort du petit cheval, parce que le chauffage, moi, j'ai un poêle à bois, c'est peut-être, je fais rentrer des 10 terres par 400, 500 euros par saison, et les fendre, mais bon, mais non, pour moi, le plus gros, c'est le déplacement.
Vous manquez pas?
Non, et puis, les fins de mois sont pas fois difficiles, il y a des factures que je fais traîner et tout, ou que je reporte, mais non, c'est pas non plus l'enfer, hein, faut pas déconner, mais bon, et c'est sûrement pas moi, je fais pas partie de ceux qui sont dans la pire des situations, parce que j'ai un toit. Mais c'est vrai que ça n'est pas très très facile. Enfin bon, là, je voudrais bien pas trop parler de moi, ma situation personnelle, quand même.
Parce que ça vous gêne ou...
Ah non. Ça me gêne, c'est pas parce que, disons que je fais partie des gens plutôt discrets, voilà, c'est tout. Mais ça ne me gêne pas du tout, c'est comme ça, c'est une situation. J'ai fait une carrière un peu hachée entre la mécanique et le transport routier et tout. J'ai eu des tas de raisons pour certaines fois de ne pas cotiser au bon moment et tout, donc j'ai effectivement une très très faible retraite, mais bon voilà, c'est comme ça, hein. C'est pas...
Les modestes économes, finalement, sont économes plutôt qu'écolo. Justement, c'est aussi pour ça que je parle de pratique économe et pas de pratique écologique, parce que c'est pas un terme qui était utilisé. Et parce que, même pour moi, dans mon enquête, quand il a s'agit de les interroger sur l'écologie, au début, je leur demandais « Est-ce que t'es écolo ? Est-ce que tu te dis écolo ? C'est quoi l'écologie pour toi ?» Et je faisais face à des silences, à des incompréhensions, voire à des refus, en me disant « Mais non, je suis pas écolo ou je comprends pas ce que tu veux me dire, ce que tu veux me faire dire. » Et c'est pour ça que je suis passée après par d'autres moyens où finalement je les ai interrogés et j'ai observé les modes de vie en train de se faire. C'est comme ça que j'ai pu accéder finalement à des discours sur l'écologie et reconstituer le rapport à l'enjeu écologique de ces modestes économes-là. Mais si je m'en étais rester à parler d'écologie avec un certain ethnocentrisme de classe en disant pour moi l'écologie c'est ça, parce qu'aussi l'écologie finalement de manière dominante et elle est définie comme ça, si je m'en étais tenue à une définition un peu par le haut que j'avais voulu plaquer, j'aurais rien compris. Et c'est parce que j'ai cherché à me délester de certaines formulations, de certains discours et de certaines aussi représentations que j'avais de l'écologie, que j'ai pu comprendre la manière dont les modestes économes considéraient l'écologie sans pour autant se considérer écolo.
Et j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de l'écologie.
C'est vaste. C'est vaste. Voilà. Je suis convaincu que l'écologie, c'est vraiment un rapport avec l'organisation des sociétés et qu'il y a une formule comme ça. L'écologie sans lutte sociale, c'est juste du jardinage. Est-ce que je suis écologiste ? Non. Non, je suis pas écologiste. Il pourrait m'arriver de soutenir des candidats écologistes et tout. Le gros truc, c'est de créer ou de tenir du lien social. On a un truc à la con, là, qu'a créé un de mes potes il y a 3-4 ans, ça s'appelle Entraide Puisée. C'est juste une liste de framadates où quelqu'un a besoin d'une tronçonneuse ou d'un coup de main, il passe l'annonce, et il y a des gens qui répondent, qui ne répondent pas. Hier, une nana qui me dit, qui a envoyé un message, « J'ai une maladie de Charcot, ma voiture ne démarre plus. Est-ce que quelqu'un veut donner un coup de main ?» Le temps de répondre, il y avait 10 personnes qui avaient répondu à ma place. D'autres. Ça, oui, cette solidarité-là, ça fait un tout petit peu, c'est pas suffisant, quoi, mais c'est important. Et essayer de recréer la solidarité. Moi, je trouve le terme solidarité, c'est un terme vachement important. mais on l'a de moins en moins. Ici, en Puisaye, depuis 3-4 ans, il se passe des choses. Il y a des petits pôles de solidarité, des petits pôles de résistance. Sur la liste d'entraide, il y a un gars là qui est à l'insec, il est à 5 km. Il a un poulailler avec 120... Il vient de l'installer, c'est des gamins d'une trentaine d'années. Ils viennent d'installer leur poulailler avec une centaine de poules et ils passent une annonce. On aurait besoin d'aide parce que il y a des rapaces qui attaquent nos poules. Et donc, j'ai des potes à moi qui ont répondu et qui ont passé l'après-midi dans le poulailler, à la fois à bouquiner, mais surtout à chasser les rapaces. Et ce qui fait qu'ils ont perdu que 8 ou 9 poules et tout. Ça, c'est de la solidarité. Les gens qui ont été là-bas, ils ont rien gagné, si ce n'est 2 ou 3 eux. Mais voilà, là, petite solidarité, 3-4 personnes qui arrivent. Qui posent leur fauteuil, qui commencent à bouquiner, et quand les rapaces arrivent, ils leur font ils jouent aux épouvantails. Ça, c'est des petits points de solidarité, mais c'est rien du tout. C'est pas ça qui va changer le monde. Ben, non. Mais, c'est important.
Les débouts rurales et les sociabilités, donc, au cœur de ces modes de vie-là, qui sont essentiellement des sociabilités tournées vers l'entraide, sont dirigées vers le faire. On fait avec beaucoup plus que l'on parle seulement. Et c'est pour ça que j'ai qualifié les débrouilles rurales d'écologie en acte. C'est-à-dire que c'est rare d'aller chez quelqu'un seulement pour discuter. Et souvent, même si c'est pour ça qu'on y va, on va me dire ah « ben, tu veux pas m'aider à faire ça, tu veux pas m'aider, là j'aurais besoin que tu montres comment tel outil fonctionne, est-ce que tu peux me prêter tel autre outil si tu viens chez moi ?» Ce qui est extrêmement important, c'est de savoir qu'on peut compter sur les autres. Et du coup, il faut aussi que les autres sachent qu'ils peuvent compter sur nous. Ce qui va passer par le soin et la confiance. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse prendre des nouvelles, il faut s'enquérir des besoins des uns et des unes et des autres. L'entraide est extrêmement centrale. Quand des politiques qualifiées d'écologiques se font sans être corrélées à des politiques sociales, on assiste à une mise en danger de ces modes de vie économes populaires ruraux, dans le sens où, simplement, le fait, par exemple, de vouloir conditionner le RSA, donc le Revenu de Solidarité Active, à 15 heures de travail par semaine sans rémunération, ça met en danger ces modes de vie, parce que certaines personnes de mon enquête qui sont bénéficiaires du RSA n'auront plus ces 15 heures-là pour effectuer tout le travail de subsistance extrêmement chronophage que demande leur mode de vie, et seront donc contraintes de faire autrement, et sans doute qu'on pourra plus parler de débrouille, mais qu'on parlera finalement de galère, et qu'elles en fait vont connaître une forme de déclassement social, et vont être plongées dans une forme de précarité encore plus grande que celle qu'elles vivent déjà. Donc c'est dans ce sens-là que on assiste à une fragilisation de modes de vie qui pourtant représentent, ce que je disais, un exemple de modes de vie économes qui tiennent dans le temps.
Je pense pas qu'on ait encore des représentants politiques. J'ai pas ces gens-là, j'ai pas l'impression d'être représenté. Pourtant, je fais partie des vieux cons qui systématiquement continuent à voter avec des doutes, mais j'y vais, parce que la démocratie quand même. Ça coûtait cher. Mais il n'y a pas. J'aimerais bien savoir, un ministre, savoir si, ce qu'il sait qu'un contrôle technique, le prix de l'essence ou du gasoil, toutes ces choses-là et tout. Et je ne comprends pas comment il n'y a pas plus d'ouvriers à l'Assemblée nationale, pour un peu plus de petits et paysans à l'Assemblée nationale, de petits. Combien il y a de caissières de prisonniers qu'à l'Assemblée nationale? Il y en a eu quelques-unes, mais pas beaucoup. Enfin, par rapport à la population, ces gens-là ne représentent pas du tout la majorité, la population.
Ça changerait quelque chose du point de vue de l'écologie?
Okay. Oui, sur l'écologie, oui. Alors, j'ose espérer que s'il y avait plus de gens vraiment du peuple, ça pourrait changer. Cette société est telle qu'elle est conçue, ça marche pas, malheureusement. Peu d'autres n'ont pas marché, mais le capitalisme, là, on y va vraiment à la cata. C'est une révolution dans les têtes qu'il faut obtenir, et là-dessus, je suis quelqu'un de très pessimiste, l'humain, c'est quand même des sacrés carnes. Donc, mais en tout cas, en ce moment, la seule chose que je peux faire, c'est ce que je fais. Parce que de toute façon, je suis un combattant, je veux dire. Je vais pas m'arrêter, j'ai fait des tas de manifestations, j'ai fait des tas de choses comme ça, des trucs. Il y en a pas beaucoup qui ont rapporté quelque chose, hein, qui ont gagné quelque chose. Hein. Si je compte, ouais, si je peux trouver 5 cas où la manifestation a servi. Et la première manifestation que j'ai faite, elle a servi. On était en 72 à Paris, en vélo. On a fait une manifestation, justement, pour le vélo. Et c'était au moment de la construction de la voie sur berge, le long du Louvre et tout, la voie sur berge, rive droite. 30 ans plus tard, la voie sur berge est en vélo. Donc, on a gagné. Enfin, 30 ans, quand même. Hein. Et les filles, ils nous ont tabassé et cassé nos vélos. Mais bon. Donc, des fois, on gagne. Mais pas beaucoup. Globalement, on gagne pas beaucoup. Donc quand on peut gagner un petit peu, quand on peut avancer un petit peu, il faut avancer. Même si on n'est pas sûr de gagner, même si il faut, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut se battre. Et puis quand on gagne un petit peu, bah c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.
Mes mains sont belles. Elles ont la forme du travail. Les ampoules de la tenaille, pour les plombs que j'ai brisés. Je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des Mama Mali. Les étals de fruits lumineux se marrent bien de moi. Portant de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux. Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces. Il renifle son nez d'alcoolo et il crache dans les salades. 8h35, assez pour liche. Pour casser une graine, un café noir et un sandwich. J'ai la mère Eugène, y a plein de
merci à Manon Richard, Julien Chaplet, Jacques Courta, Claude Cibot, aux habitants des quartiers de la Gare et de la Madeleine à Joigny, Adrien Mallier, Anouk, Jean-Baptiste Combi, aux habitantes du quartier des Champs-Plaisants à Sens et à Angélique Bouillot, Anissa Nebia, aux jeunes de Get Up, Pierre Faucheur, Fanny Hugues, et mention spéciale à Marie-Laurence Niel et Uther Roland. Prise de son, Benjamin Thuot, Nicolas Mathias, Manon Houssin, Geoffrey Marianne, Xavier Lévesque. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Annie Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Bonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Écologie et résistance, épisode 1, La charge mentale des petits gestes. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Cécile Lafont.
Le rouge des fraises dans la tête, le vert des poires. Le vendeur me casse les glandes. Il aime pas bien la couleur du préparateur de commande. Le ciel est triste, je trie des pommes. 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 Le ciel est triste, je trie des pommes, bleu fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes, bleu fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes, fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes, fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes.